Christophe Barbier, vous gardez le pouvoir. 12 ans de retard sur la date de mise en service initialement prévue. Mais ça y est, le EPR de Flamanville, donc, dans la Manche, devrait démarrer sa production d'électricité dans les toutes prochaines semaines, a priori cet été. Le gendarme nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire, a donné son accord pour charger le combustible de l'uranium enrichi dans le réacteur. Donc ça y est,
ça démarre. Petit quiz, ça veut dire quoi EPR ? Ben, ça veut dire deux choses. Au départ, c'était European Pressurized Reactor, donc réacteur européen pressurisé, et c'est devenu évolutive puissance réacteur. Donc un réacteur à puissance évolutive.
Zéro pour tout le monde.
Voilà, ouais. Ça c'est là, voilà. Ensuite, 13,2 milliards de coûts. C'est quatre fois plus que ce qui était prévu. Il y a eu beaucoup d'incidents, des réparations à faire. On apprend, hein, c'est un prototype. C'est 400 TGV. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas 400 TGV qui circulent.
Hein. Et ils marchent avec l'électricité qui vient de la centrale nucléaire.
Et ils marchent avec l'électricité nucléaire. Alors voilà, que nous dit ce retard ? D'abord qu'on a perdu en France le savoir-faire nucléaire, le savoir construire des centrales entre les générations précédentes et celles qui arrivent. Il a fallu reconstruire ce savoir-faire.
On a perdu les gens.
On a perdu les gens
parce qu'on a arrêté le nucléaire.
Bien sûr.
Pour des raisons politiques.
Il n'y avait plus d'avenir, on n'allait plus dans ces filières. Quand on s'y est remis, il a fallu reformer, réapprendre. Ensuite, on voit qu'on a voulu faire ça aussi avec les Allemands, c'est très bien, ça a été difficile, ça a additionné des conditions de sécurité, des normes à vérifier, ça n'a pas été un atout. Il y a d'autres EPR qui fonctionnent, hein, en Finlande, deux en Chine, il y en a deux qui sont en construction en Grande-Bretagne. Mais on est vraiment à la pointe et on a réappris, on s'est rééduqué au nucléaire. Et évidemment, depuis deux ans, dans ce pays, tout le monde est devenu pro-nucléaire. Quand on a vu que la Russie pouvait faire exploser nos factures, on s'est dit, oulala, heureusement qu'on va reconstruire du nucléaire et les mini-centrales qu'a promis Emmanuel Macron. Maintenant, pourquoi on n'était pas pro-nucléaire il y a quelques années ? Ah, il y a eu Fukushima, il y a eu la politique menée par les Verts, il y a eu des accords à gauche pour démanteler le nucléaire. Mais ce sont les Français qui votaient pour la majorité de gauche en 2012.
Parce qu'il y avait quand même une vraie désinformation. Il y a eu une vraie désinformation.
Non, pas une désinformation.
C'est ce qui s'est passé. Par exemple, ce qui s'est passé en Allemagne est très marquant. Quand en Allemagne, on apprend que le ministre des Affaires écologiques et énergétiques a truqué lui-même des rapports parce que ça allait pas dans le sens.
Ça s'appelle la politique, ça.
Non, c'est pas seulement la politique, ça s'appelle de la fraude.
Oui, mais les partisans affreinés du nucléaire, notamment EDF, quelques constructeurs, parfois faisaient l'éloge du nucléaire en cachant certains risques ou certaines failles. C'est la démocratie qui tranche.
Il y a eu quand même une vraie campagne qui a été menée pendant des années par Greenpeace notamment,
qui a été
l'arme absolue anti-nucléaire.
Ils ont été écoutés
parce qu'ils ont joué sur des peurs et effectivement.
Ils n'ont pas inventé Tchernobyl, ils n'ont pas inventé Fukushima, et donc les opinions.
Le lobby pro-nucléaire n'est pas spécialement muet et discret. Il y a au moins un équilibre de lobby dans cette affaire.
On va essayer de mettre tout le monde d'accord. Je pense que le nucléaire, parce qu'il y a le problème des déchets, il y a le problème de la sécurité, le nucléaire, il faut en sortir le plus vite possible. Mais tout est dans le mot possible. Aujourd'hui, c'est impossible. Dans 10 ans, c'est impossible. Dans 50 ans, je n'en suis pas sûr. Dans 200 ans, les gens se retourneront en disant « Quel risque ils ont pris à avoir du nucléaire ? Ils n'avaient pas le choix. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû avoir peur ?»
Eh bien, moi, je pense que nous savons maintenant que l'Allemagne a été absolument infiltrée par des Russes
C'est Merkel qui décide après Fukushima.
Non, allez-y. Je suis en train de parler de ça. Revenons aux années 80. Revenons aux années 70. Revenons avec Atomkraft, Nein, Danke. Et tout ce mouvement anti-nucléaire qui est poussé en Allemagne par des gens qui sont, on le sait maintenant, parce que les papiers sont sortis, spécialement au moment de la chute de l'Union soviétique, qui étaient des espions russes. Quand parallèlement au nucléaire civil, il y a l'opposition au nucléaire militaire, c'est-à-dire que vous avez des jeunes Allemands qui se promènent dans toutes les villes allemandes en train de crier « mieux vaut rouge que mort » et qui sont emmenés avec des cinquantaines, des centaines d'autobus d'une ville à l'autre, puisque l'Allemagne, c'est plusieurs capitales et pas un centre. Et ce sont des dissidents soviétiques que j'avais interviewés à l'époque, Andrei Zinoviev et Leonid Pliouch, qui m'avaient dit « mais qui croyez-vous qui paye pour ces autobus ? C'est le KGB » et on l'a retrouvé quand l'Union soviétique est tombée. Et donc, tout le côté pacifiste, anti, surtout pas la guerre, surtout pas l'atomique, vive la pureté allemande et les grandes forêts allemandes, c'est quelque chose qui a été entretenu par les Russes pour faire de l'Allemagne le point faible, le maillon faible.
Merkel, née à l'Est, était-elle une agente soviétique quand elle a arrêté l'Union
européenne? Je pense que c'était une fille de pasteur.
Et puis elle faisait son calcul politique.
Première.
C'était pas le meilleur chemin pour devenir soviétique.